bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Ouais!
La bande originale, allez! La bande originale avec Elina Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Jérémy Crédville.
Bonjour à tous.
Tanguy Bassureau.
Salut.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Et nos invités Anna Girardot et Judith Chaplin.
Bravo.
Bonjour Anna, merci d'être à l'heure et d'être ponctuelle. C'est souvent le cas d'ailleurs, quand vous venez avec un partenaire ou une partenaire, c'est vous qui êtes à l'heure.
Toujours.
Et vous assurez. Et ça nous fait très plaisir de parler de cette septième édition du Champs-Élysées Film Festival où vous serez membre du jury. Est-ce que c'est la première fois d'ailleurs de votre carrière de comédienne que vous êtes membre d'un jury?
Non, c'est la quatrième fois que je suis membre d'un jury.
On vous le demande souvent alors.
Oui.
Et vous aimez ça?
J'adore ça.
C'est l'occasion d'abord de voir plein de films avant qu'ils ne sortent.
Exactement.
Ou de juger aussi le travail des autres.
D'abord, on voit des films qui parfois ne sortent pas en France.
Et ah
puis,
oui, carrément.
Bah oui, il y a des films qui ne trouvent pas de distributeur.
Ce et qui puis... sera le cas de ce, ça peut être le cas de oui, des films projetés.
D'ailleurs, ça peut même aider d'autres films à obtenir plus de visibilité, plus de publicité et avoir une meilleure vie dans notre pays.
D'accord. Et juger le travail des autres, parce que on a le sentiment quand on entend les acteurs, les actrices, les réalisateurs, que ce côté jugement, que ce soit la critique ou que ce soit les prix, c'est pas une compétition. On entend souvent au César d'ailleurs dire ouais, c'est pas un match.
La guerre.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais quand on est de l'autre côté, quand d'un coup on est juré, c'est chaud, non?
Oui, mais on n'est pas là pour juger. Après, on va mettre en avant.
Puisque vous pouvez permettre à des films d'être mieux distribués ou pas.
On n'est pas de critique.
Ouais, c'est vrai.
Mais on est là pour mettre en avant peut-être un acteur ou une actrice, un film qui nous a plus touché. Encore une fois, c'est vraiment pour mettre en avant les films, pas pour les casser ou c'est pas notre rôle.
C'est le festival du film indépendant. Alors il faut peut-être expliquer aux auditeurs la nuance et l'importance de l'indépendance.
Des films qui n'ont pas d'argent.
Ouais, voilà. Résumé.
C'est des films qui arrivent à se faire et qui se font par la force du poignet, quoi.
Donc c'est pas les moyens des grosses multinationales, ce ne sont pas non plus les moyens des gros distributeurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr d'avoir les multiplexes et 800 salles d'un coup d'un seul qui projetteraient le film.
C'est pour ça qu'il y a les festivals.
Donc c'est qualifié quoi de film d'auteur? C'est forcément des films d'auteur, un film
indépendant?
Non,
en fait.
C'est film indépendant.
Jérémy,
c'est film indépendant, c'est noté sur le truc.
Oui, je te remercie. Oui, mais je veux définir l'indépendance. S'ils sont indépendants, c'est qu'ils ont une liberté d'auteur que les autres n'ont pas. Ils ne répondent pas aux critères de marketing dont nous parlait Jean-Pierre Jeunet à ce micro hier.
Très bonne émission d'ailleurs que j'ai écoutée.
Ah, Judith est là.
Ah, bah, très bien. Ah, bah, on est vraiment direct. Judith Chaplin. Bienvenue.
Merci.
C'était bien indiqué, ils vous ont bien expliqué où c'était.
Bah oui. C'était cool. Un peu ric-rac.
C'est bon. Cool.
C'était la maison de la radiologie, c'est pas
nous, trop. Nous embêtions Anna Girardot à trouver une définition d'un film indépendant. Vous pouvez l'aider ou pas?
Elle
va repartir, je crois qu'elle va.
C'est bien, pas subventionné par des chaînes, par je sais pas quoi.
Ah, des gros producteurs.
Des gros producteurs, ouais.
Ouais.
Qui trouve des subventions.
Et au-delà du financement, est-ce que ça change l'écriture,
le contenu?
Le réalisateur est pas soumis à des contraintes de
marketing.
De faire tant d'entrées, de plaire au plus grand nombre. Il fait vraiment le film qui veut,
faire
quoi.
Trois fins avec un panel de spectateurs qui va choisir la fin idéale.
Je pense que le producteur est peut-être moins intrusif. J'en sais rien.
En tout cas, vous êtes dans le même jury toutes les deux, parce qu'il y a plusieurs jurys, entre guillemets, plusieurs compétitions. Il y a dans cette programmation, alors il y a des longs métrages qui sont 6 longs métrages français, 6 longs métrages américains, indépendants donc, qui seront présentés dans cette compétition. Ils concourront pour le prix du public et le prix du jury. Et dans le jury, il y a Nedra Ayadi, Sébastien Betbédé, Damien Bonnard, Pierre Deladonchamp et toutes les deux, Judith Chemla et Anna Girardot. Il y a également des courts-métrages français et américains qui seront présentés pour un prix du public, également un prix du jury. J'ai découvert, je ne sais pas si on en avait parlé lors des précédentes éditions, il y a de l'argent qui à la clé. C'est-à-dire que c'est pas juste un prix honorifique avec un beau diplôme ou un beau trophée.
Il y a 17 euros.
Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, je crois. Non, c'est l'ordre de 20 000 euros. C'est quand même beaucoup pour aider justement à la distribution.
Ah ouais, 20 000 euros. C'est sûr, c'est formidable quand même.
Pour aider la distribution.
Mais alors, l'argent revient pas au réalisateur, il revient
au distributeur.
Au distributeur.
Ouais. Ah, au distributeur.
Au distributeur. Ah, je vois que vous le découvrez.
Ah oui, excusez-moi, ouais. Je débarque.
Alors, ça et on n'a pas dit que c'est Serge Boson qui présidait le jury.
Exactement. Le président du jury étant Serge Boson. Alors, l'argent, je crois, pour la distribution, les 20 000 euros, va au distributeur. Et pour les courts-métrages, je crois que c'est moins, ça doit être 5 ou 10 000 euros. Là, ça va au réalisateur pour pouvoir développer des films et développer de nouveaux projets. Vous savez ce à quoi vous allez avoir droit ou pas?
Vous avez déjà vu la programmation. On parle de 1 000 euros chacune. C'est pas mal,
c'est pas mal.
Je parlais de programmation artistique.
C'est indépendant, 1 000 euros, c'est pas mal pour un festival indépendant.
Non, vous savez ce qui est au programme?
J'ai vu les titres des films.
Oui, moi aussi, mais après on les découvre. Ça, j'aime pas du tout lire, moi, les synopsis avant de découvrir le film. Je préfère prendre la surprise.
De pas savoir de quoi ça raconte.
Ouais,
en tout cas, tout au long de la semaine, il y a aussi, il se passe beaucoup de choses autour de la, entre guillemets, compétition. Il y a...
des masterclass.
Des masterclass, ouais. Et il y a Tim Roth. J'adore cet acteur.
Ouais,
génial. J'adore. Non seulement il y a une rétrospective de tous ces films, il y a le dernier qui sera projeté en avant. Première, parce qu'il y a beaucoup d'avant-premières, qu'elles soient parisiennes, nationales ou internationales. En tout cas, il y a des films qui sont projetés avant tout le monde. Et Tim Roth qui vient répondre à une masterclass, ça, c'est trop la classe. Pareil pour le réalisateur américain John Cameron Mitchell, qui lui aussi donnera une masterclass et qui est l'invité d'honneur de ce festival. Également masterclass pour les frères David et Nathan Zellner, qui sont aussi invités d'honneur. C'est tout un système de passes, je crois que pour une vingtaine d'euros, on peut avoir accès à tout...
20 euros la passe?
Non,
un pass pour le festival.
Un pass qui vous permet d'assister à la fois à des projections. Il y a des showcases aussi le soir, je crois en fin de journée, avec des groupes.
Voilà, au 113.
Ouais, le rooftop de Publicis, c'est ça des,
exactement.
Voilà, et donc il y a des groupes qui sont programmés, il y a des rencontres possibles. Voilà.
C'est ouvert à tout le monde, c'est pas un festival de professionnels de la profession qui se retrouvent entre eux pour se congratuler.
Ça n'empêche pas, on peut féliciter quand même.
Pardon, c'est pas parce que c'est indépendant.
Pas que, non, mais tu vois, Festival de Cannes, le public lambda n'y a pas accès.
C'est plus un festival de cinéma, le Festival de Cannes.
C'est un marché international du film.
Voilà.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Comment vous êtes retrouvé là-dedans d'ailleurs?
Pour le fric, un peu.
Pour les 1 000 euros.
Pour le
fric,
bien sûr. Julie,
1 000 boules.
Ça serait bien. Judith,
pardon.
C'est pas grave. Ben, on m'a. C'est-à-dire, c'est assez simple en fait. C'est une demande qui m'arrive de la part de. Par mon agent, voilà, après je dis oui.
Êtes-vous disponible ou pas?
Voilà.
L'avez-vous déjà fait?
J'ai été jury, là, juré cette année pour le film fantastique, le festival du film fantastique.
De Gérard Armé.
Et vous avez vu des choses qui ne sont pas encore sorties?
Oui.
Comme?
Ah non, qui ne sont pas encore sorties. Il y en a pas mal qui sont sorties quand même déjà.
Parce que le film qui vous
Mais
a marqué.
Je crois qu'il y a Revenge qui n'est pas encore sorti. D'une française, pardon, j'ai oublié le nom, mais qui a fait quand même pas mal de bruit.
On va retrouver.
À Sundance, dans plein de festivals.
T'as pas vu non plus les
là? Non, j'ai pas. Non. Je cherche, j'ai pas.
Ok.
Mais tout ce qui est culture, tu ne me demandes pas à moi, quoi.
Non.
dans tout, dans le festival, il y a 60 films, 80 séances données dans toutes les salles de l'avenue des Champs-Élysées. Et vous jouez également dans la vidéo promotionnelle. Alors, parlez-moi de cette vidéo.
Ah oui,
Anna.
La vidéo, le film de Cédric Lapiche.
Ouais.
Et c'est une sorte de fausse bande-annonce.
Avec votre copain Pio.
Avec mon copain Pio.
Avec qui vous avez joué, justement. Vous étiez venu à ce micro nous parler du film de Clapiche.
Exactement. D'ailleurs. Et donc, du coup, voilà, quand Cédric Clapiche nous appelle, bah, nous, on est là, on est au rendez-vous. Et puis, le
vous avez donné la chance à François Berléand également de pouvoir revenir devant une caméra, ce qui est toujours touchant.
C'est beau, Berléand, il s'en prend plein la tronche.
C'est émouvant. Non, c'est émouvant de voir ce comédien que tout le monde a oublié et à nouveau rappelé comme ça devant une caméra.
Ce qui est bien, c'est qu'avec Alzheimer, il n'a plus de regrets. Il ne pense pas à son ancienne carrière.
Bah alors, oui, vous avez contre lui.
Rien, il est François Berléand, ça suffit comme explication.
Et pour The Revenge de Coralie Farja, il est sorti en février en fait.
Ah, ça te revient.
J'ai cherché.
Très bien.
Ça passe vite le temps.
Qu'est-ce que ça apporte ce festival indépendant? De l'importance de ce festival indépendant pour vous, Leïla?
Déjà de pouvoir exposer en effet des œuvres qui ne pourraient pas connaître une vie ici sur le territoire français. Puis je crois aussi l'intérêt, c'est des rencontres. Tout simplement, les réalisateurs peuvent venir présenter présenter leurs films. C'est l'occasion de rencontrer des comédiennes qui sont dans le jury ou pas dans le jury, pour le coup. C'est de, je me souviens,
sauf qu'elles vont rater les masterclass.
Oui, c'est vrai.
J'ai senti que Tim Rose aurait bien aimé assister à ça.
François Ozon nous avait parlé du festival en disant qu'il avait pu croiser à cette occasion des groupes de musique aussi, parce que c'est aussi des idées pour des musiques de films, des collaborations à terme. Donc c'est toujours l'intérêt d'un festival, me semble-t-il, c'est de favoriser en fait la rencontre entre des métiers très très différents.
Il y a comme film comme As You Are de Desiree Akawen avec Chloé Grace, qui elle sera Chloé Grace Moretz, pardon, il faut que je donne son nom en entier, qui sera également présente aux côtés de la réalisatrice. C'est qui cette fille ? C'est un film de Nathan Silver. Toute l'équipe sera présente jeudi prochain pour présenter le film. Steven Soderbergh, trop la classe aussi, le nouveau Steven Soderbergh qui s'appelle Unsane, et Piercing de Nicolas Peirce. Ça fait partie des avant-premières nationales qui sont présentées lors de ce festival. En tout cas, vous avez bien de la chance, parce que j'ai l'impression que la programmation, moi j'ai regardé les pitchs des films et les comédiens, ça donne envie en tout cas. Ça donne envie. Il n'y a pas de prix, il y a des prix de meilleur acteur, actrice ou pas ?
Non, apparemment non.
Non, vous ne distinguiez pas ça. Non. Et vous savez comment ça va se passer ? C'est-à-dire, vous voyez les films, vous allez tout de suite vous mettre dans une pièce pour débattre ou c'est, comment c'est organisé ? Vous avez une idée ?
C'est un peu le président du jury, non, qui va nous dire...
Pour qui voter ?
Finalement,
c'est comme un cadre.
Ou bien, il nous donne.
Non, vous connaissez, connaissez avec Serge Bozon ou pas ? Vous vous connaissez avec Serge Bozon ?
Non, je suis très fan.
Vous allez voir, il est odieux.
Et toutes les deux, vous aviez déjà travaillé ensemble ou pas ?
Non, jamais. Si, on avait fait un petit film pour l'annulation de César il y a très longtemps.
Elle a oublié, elle s'en souvient, Judith.
Moi, j'avais le rôle de la moche au fond de la classe, j'étais dégoûtée.
Vous ?
Avec Adèle Exarchopoulos.
Et puis j'étais en retard pour une répète, j'avais pleuré et tout, c'était vraiment très mauvais souffle.
Bon, moi, remarque, on m'avait mis en espèce de leaduse du lycée, on m'avait fait une choucroute comme ça, c'était horrible. On ne se sentait pas très à l'aise ce jour-là.
Je suis ravie de vous avoir fait revivre des bons moments. Plaisir.
Ça va, vous voulez un café,
Tom Villa, vous avez compris pourquoi Judith Chemelin et Anna Girardot étaient nos invités.
On vient d'en parler pour la 7e édition du Champs-Élysées Film Festival. Alors, l'ambition, on le rappelle, du festival, c'est de défendre et de promouvoir le cinéma indépendant américain et français. Et nous, à France Inter, quand il y a indépendant, on répond toujours présent. On parle de l'indépendance de l'information, de l'indépendance des humoristes, jusqu'à la machine à café où c'est un petit producteur indépendant au fin fond du Costa Rica qui nous livre. Alors, le cinéma indépendant...
Équitable.
On va en parler quand même. En tout cas, voilà, ici à Inter, on est obligé de dire qu'on aime le cinéma indépendant. Tout le monde a relu son contrat de travail ou pas d'ailleurs ? Parce que l'article 4.2 alinéa 6, tout salarié de France Inter s'engage à défendre le cinéma indépendant, même s'il faut bien avouer que parfois, dans certains cas, les films indépendants, c'est un peu longué sur la fin, voire même au milieu, mais et il y a des fois qui sont un peu mou du cul dès le début. Très important. Non, mais c'est vrai, très important de toujours relire ces contrats. Nous, par exemple, on doit dire du bien de Nagui 5 fois par émission. Et le plus dur, c'est pour Fabrice Rouel qui est tout seul dans son émission. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Bravo pour ce festival. C'est important qu'il y ait des gens qui défendent le cinéma indépendant. Et puis surtout, on n'oublie pas de remercier aussi les gros films de merde qui font des millions d'entrées sans qui les petits films indépendants n'existeraient pas. Non mais c'est vrai, c'est dur d'être indépendant. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ça fonctionne parce que c'est simple et c'est efficace. Rien que le pitch, on dirait une blague carambar, c'est un noir, un juif, un musulman, un chinois et un raciste qui sont dans une maison. Voilà, bim, ça tombe, c'est facile. Si tu veux faire la même chose en cinéma indépendant, ça se termine avec la rencontre entre un réfugié syrien et un rabbin progressiste qui sillonnent les routes de l'Allier à la recherche de leur identité perdue, avec une jeune militante qui épouse le clandestin sans papier contre l'avis de ses parents juste pour lui donner un passeport, mais elle va tomber amoureuse de lui, et ils se marièrent, ils vécurent heureux, ils se accompagner à la frontière.
Évidemment, raconté donc, comme ça.
Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Le problème avec les créations indépendantes, c'est que t'as tout. T'as des trucs vraiment sublimes et puis t'as des trucs qui sont. Voilà, tu sens que le gars a mis indépendant sur l'affiche juste parce qu'il n'y a pas trouvé de distributeur. Donc voilà. Alors, faut pas confondre, parce qu'un film indépendant, c'est pas forcément un film qui ne marche pas en salle. Et réciproquement, un film qui ne marche pas en salle, c'est pas forcément indépendant. Dans la musique, c'est pareil. Nagui, regardez, méfiez-vous de l'indépendance des artistes. Quand vous voyez tourner acoustique dans des salles plus petites pour être plus proche du public, c'est juste parce que le mec, il remplit plus les zéniths et que voilà. Il n'y a pas de quoi se payer des musiciens. Voilà. Alors après, il y a quand même des trucs où tu peux pas être indépendant sur tout. En amour, être indépendant, c'est être célibataire. Et puis les gens qui disent, je suis en couple, mais indépendant, bah, dis que tu dors sur le canapé parce que tu t'es engueulé avec ta femme, ça sera plus rapide. À la limite, non, le seul truc où c'est bien d'être indépendant, c'est un gage de qualité, c'est dans le vin. Les vignerons indépendants, généralement, ça fait du bon vin. Après, je vais pas en dire plus, même si un conseil, relisez vos contrats, article 12.3, alinéa 7. C'est aussi imposé dans nos contrats à France Inter, mais ça, Daniel, il le sait déjà.
De quoi, bonne de boire du vin ouais. Merci, Tom Villa. La bande originale, la vie sur France Inter. Anna Girardot et Judith Chemla sont nos invités. Et vos oreilles ont sifflé, oui. Leïla, quand on vous a dit que Judith venait pour la première fois.
Ah bon, la première fois.
Et Anna revenait. Un deuxième, pardon.
Non, c'est vrai.
J'étais là avec Géraldine.
Géraldine pour un très beau film sur trois sœurs en Israël.
Elle a préparé cette émission.
Ah oui. Moi, j'avais adoré être là. Tu vois, justement,
on va commencer par vous, Judith. Regardez, on va commencer par vous. Quand je pense à vous, j'entends une voix.
Oh merde.
Il y a du douce.
C'est tiré douce, hein.
C'est une reprise de la naissance.
Judith, votre voix dans une de vos compositions à The End of the Landscape, un morceau que vous interprétiez en 2011 sur le plateau de l'émission Des mots de minuit, une émission que l'on ne peut que regretter d'ailleurs à la télévision.
Tu viens de le faire.
Voilà. Ouais. Et quand je pense à vous, forcément, je pense à votre voix. Et récemment, je vous ai vu d'assez près lors de la cérémonie des Molières.
Sublime.
Avec Serge Bagdasarian. J'ai même vu Judith dans les préparatifs avant de monter sur scène dans les loges. En duo avec Serge Bagdasarian, avec cette reprise complètement improbable des 10 commandements, l'envie d'aimer.
Ce karaoké.
Quelle souplesse.
Avec une mise en scène déjantée. Je vous attends,
n'oubliez pas les paroles, maintenant, vous êtes obligés.
Mise en scène déjantée et érotique qui, je pense, aura donné pas mal d'idées aux metteurs en scène qui ont pu vous voir, parce que ceux qui ne savaient pas que vous chantiez comme
elle
ça.
Non, elle n'est pas sûre.
Le chant.
Ah oui, le chant.
Mais c'est assez rare pour être souligné des comédiennes qui chante bien. Bah ouais, c'est vrai. Donc quand je pense à vous, forcément, je pense à tout ça.
Tu veux balancer des noms ?
Non, mais voilà.
Et des chanteuses qui jouent mal à la comédie, tu veux penser
à ça, je vous laisse les données, moi j'ai pas que ça à faire. Mais Judith, le chant et vous, c'est une longue histoire finalement, et c'est presque un hasard, je crois.
Un hasard ?
Ouais, une découverte au hasard.
Je sais pas, non, mais j'ai quand même toujours chanté quand j'étais petite et tout. J'adorais chanter, quoi. Mais après, le chant, non, moi, j'ai beaucoup fait de chant lyrique, d'opéra, même. Après, c'est en écoutant, j'ai toujours imité, quoi. J'étais un peu imitatrice. Donc, et après, quand je vois que j'imite et que ça fait la voix de l'opéra, je me dis, oula.
Ah, donc je vais creuser. Ouais, donc c'est en imitant que vous vous rendez compte que vous avez une voix.
Vous avez découvert presque par hasard vos capacités vocales.
C'est-à-dire en faisant comme la chanteuse, quoi. Et puis je me dis, ah, dis donc, ça.
Ça tient. Je tiens la note, j'ai le souffle. Ouais. Vous avez découvert ça avant d'être comédienne ?
Non, j'avais déjà commencé le théâtre et tout ça.
Ouais. Et donc le travail sur la respiration aussi ou...
Oui, un peu, mais non, pas vraiment.
La colonne d'air.
Est-ce que c'est une carrière parallèle ? Vous avez donné un concert aux Trois Baudets, par exemple. Vous produisez aussi sur scène. Est-ce que vous l'appréhendez comme un parallèle à votre carrière ou une envie d'en faire un tout, in fine ?
Ouais, pour moi, c'est un tout. Mais là, par exemple, toute l'année, depuis 2 ans, je suis en tournée avec la Traviata qu'on a joué au Bouffe du Nord et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment le mélange d'un jeu très... Enfin, où on vit vraiment les choses, et puis la musique, là, c'est le pompon, quoi. Non, c'est
vrai. Et vous, Anna, vous ne chantez pas ?
Non.
Je ne crois pas.
Pas
vraiment,
encore.
Je cherche encore mes capacités vocales.
Vous savez si vous chantez juste ou pas ?
On me l'a dit, hein, je ne chante pas juste. Ah. Vraiment. J'adore chanter pourtant.
Il paraît que ça s'apprend.
C'est pas gentil.
Je sais pas, Judith, non, ça s'apprend ou pas, la justesse ?
Quand même, oui. Je pense que l'oreille, elle doit s'éduquer. Moi, j'ai un père violoniste. J'ai toujours entendu de la musique, toujours entendu travailler, chercher. Donc...
Moi, j'ai un père chroniqueur sur France Inter.
Mais oui, tu sais que j'ai joué avec ton papa.
C'est vrai ?
Bah ouais.
Ah, je savais pas.
Bah ouais, on se connaît.
Donc le chant, non, ça c'est pas pour vous, Anna, a priori, parce que dans les interviews, vous parlez beaucoup de musique. Je trouve que vous avez toujours une pure playlist à chaque fois. Vous balancez des très très bons sons, des belles références qui sortent un petit peu, je trouve, des sentiers battus. Votre modèle, vous le disiez dans une interview, c'est Beyoncé.
Oui.
Et on vous a vu jouer notamment dans pas mal de clips, dans le clip de MGMT notamment.
Oui. Tout à
It's
fait.
Working.
Mm-hmm. Énorme succès. Ouais.
Et comment vous appréhendez-vous la musique au quotidien ?
Alors, vraiment, j'aurais adoré savoir chanter parce que la musique, pour moi, ça peut tout remplacer. Je pourrais me nourrir de musique. J'adore ça. Et j'adore les gens qui me font découvrir de la musique. J'adore les gens qui sont passionnés de musique. J'en écoute à longueur de journée. Et
ça traduit des émotions pour vous, la musique ?
Pour moi, c'est le meilleur véhicule d'émotion, la musique. Et donc, les chanteurs arrivent ont cette capacité à transmettre une émotion. Pour moi, les rockstars vivent une espèce de truc dingue quand t'as une foule de gens qui chantent en même temps que toi. Ça doit être une sensation. Déjà, quand t'es dans le public,
c'est déjà fou.
Tu chantes avec la foule, c'est incroyable.
C'est pas le même sentiment que d'être sur scène, au théâtre, d'interpréter un rôle et d'avoir un retour, soit un éclat de rire, soit on sent qu'il y a un trouble dans la salle. Vous devez ressentir les mêmes choses, non ?
Peut-être le rire, mais alors moi j'ai jamais fait des rôles qui faisaient rire, alors malheureusement.
Le public qui hurle vos répliques en même temps que vous, ça doit
faire un sentiment. Ça n'a rien à voir.
Ça ferait pas le même effet, je pense.
Judith, sur scène, on peut avoir le même sentiment en chantant et en jouant la comédie, de partage ou de communion avec un public ?
Moi, je trouve quand il y a des textes, des grands textes, vraiment avec des courants profonds, hyper. Ça se rejoint un peu, quoi, je trouve. Mais c'est vrai que la musique, on sait que directement, avec une note, on touche tout le monde en plein cœur. Quoi.
Ouais, ouais.
Et puis que tout le monde vibre à l'unisson. Quoi. C'est
surtout,
physique,
surtout
en fait.
Surtout le violon, je pense que c'est l'instrument qui peut déclencher des larmes.
Et de douleur aussi.
Non.
Il y a des notes. Mais je ne savais pas où ça allait aller.
Non, je suis sincère. Moi, je me suis surpris sur des notes de violon.
Oui, t'es sensible.
Que
aussi.
Ce soit de la musique classique ou même des morceaux plus qualifiés de variété.
Ouais.
Je ne sais pas si c'est une histoire de vibration, de fréquence ou autre, mais d'un coup, ça déclenche des larmes, je ne sais pas comment le dire autrement.
Ça va. Et l'oignon.
J'imagine que vous avez dû vivre ça aussi, cette émotion-là, d'avoir quelqu'un que l'on aime produire un son émouvant, ça doit être bouleversant.
Moi, mon grand-père, il prend son violon, bon, il joue moins bien qu'avant, c'est ce qu'il dit, hein. Je ne veux pas le trahir là-dessus, mais dès qu'il se met à jouer, à vibrer, il y a toute sa vie qui passe dans ses cordes, quoi. Et t'as envie de pleurer tout de suite parce que c'est une émotion, mais énorme.
Ça a l'air sympa d'avoir une
autre
famille.
Amour de la...
Non, mais c'est trop beau.
Quand vous parlez des rockstars, Anna, pour revenir à ce que vous disiez, à laquelle en particulier vous pensez ? Quand vous dites c'est rockstar en communion
avec tout un stade. Ou récemment un concert que vous avez vu où vous avez senti cette communion.
Mais c'est Queen, c'est Freddie Mercury,
c'est
par
Freddie
exemple.
C'est Freddie Mercury, le premier qui arrive. Mais il y en a plein. Il y en a plein.
Et vous avez été déjà fan, groupie d'un artiste ?
Alors moi, j'étais très fan, ado, de Stéphane Echer.
Ah ouais.
Alors j'allais voir tous ses concerts, je connaissais toutes ses chansons par cœur. J'avais volé son grattoir. Enfin bon, c'était.
C'est pas un grattoir.
Mais c'est mignon, moi aussi, j'ai grattoir.
Un médiateur.
Il y a une petite histoire de délinquance quand même là-dessus.
Le grattoir, c'est pour le chat qui fait ses griffes. Mais maintenant, je dirais à Stéphane que vous aimeriez qu'il soit un chat qui fasse ses griffes.
Exactement. Mon Dieu.
Et groupie, pardon, ça veut dire avoir le t-shirt avec la tête du chanteur, ça veut dire avoir un poster dans la chambre, ça veut dire vous avez été une adolescente.
En backstage,
voyons. Ça c'est une chance, un privilège ça.
Non, j'ai à un moment donné j'ai été j'ai joué dans le clip des The Cooks.
Oui, groupe anglais qui revient avec un nouvel album qui est vachement bien. Ouais, il y a un nouvel album qui sort là.
J'étais à un moment donné, j'ai vachement traîné avec eux et c'était top de les voir sur scène et puis de voir un peu un rock band. Je voulais absolument faire partie d'un rock band, quoi. C'était mon rêve.
Et alors, puisque vous dites ne pas pouvoir ou ne pas savoir chanter, jouer d'un instrument, c'est aussi non plus.
Non, mais quand on n'a pas l'oreille, on n'a pas l'oreille. C'est un truc, voilà.
Fais de la cornemuse.
Batteur. C'est sexy une fille à la batterie.
Non, j'ai essayé la batterie là-bas, non.
Dans la loge de France Inter, non. Champs-Élysées Festival, c'est à partir du 12 au 19 juin, c'est d'un mardi à un mardi, comme les films peuvent sortir d'un mercredi à un mercredi, ils l'ont fait du mardi au mardi, avec que ce soit des invités d'honneur, comme on l'a précisé tout à l'heure, Jennifer Jason Leigh, je ne l'ai pas dit, sera présente également, Tim Roth, je l'ai dit, Serge Boson, Chloé Grace Moretz, il y a également des films en avant-première, des films hors compétition, puisqu'il y a la filmographie ou l'intégrale, entre guillemets, de Tim Roth qui sera également projetée, projection également de courts-métrages français ou américains en avant-première. Au-delà des avant-premières, il y a aussi en musique, comme on l'a dit, des showcases qui auront lieu sur le rooftop du 113.
Des soirées DJ set. Ouais.
C'est un peu le bordel. Quoi.
Alors c'est pour la durée du festival, c'est 49 euros, c'est 35 pour les moins de 26 ans. Et vous avez accès à tout, à toutes les séances, toutes les projos, aux masterclass, aux soirées, au rooftop. Mais sinon, il y a des tarifs aussi à la journée.
Tu peux voir 60 films pour 25 euros. C'est top.
35, si t'as moins de 26.
Tu discutes.
Voilà, c'est ça.
J'ai dit 113, c'est 133, pardon, je dis des champs.
Ouais,
enfin,
ça.
Vous avez qu'à écouter le bruit, vous verrez bien où ça va.
Ouais, c'est ça, voilà, absolument.
Plutôt du 133.
On est précis sur la promo, ça, ça fait plaisir.
Mais non, mais j'ai pas l'adresse.
Il y a un site internet, c'est hyper bien foutu.
T'es mon héros.
Voici chez Amy Crédville.
Alors salut les gens distingués et salut Nagui. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin et oh, horreur, c'est la Saint-Gilbert. Non, pas du tout. Enfin si, c'est la Saint-Gilbert, mais c'est pas horrible de s'appeler Gilbert. Enfin, c'est pas horrible à partir du moment où tu as l'âge de t'appeler Gilbert. Si t'as 8 ans et que tu t'appelles Gilbert, c'est un procès à tes parents. Non, mais Gilbert à 8 ans, c'est sympa, mais pour un poisson. Si, 8 ans pour un poisson rouge, c'est sympa, c'est long. Mais pour un être humain non muni de branchies, c'est pas top. Hein. Y a pas de bébé Gilbert, de nos jours, aucun Gilbert n'est en âge de porter des couches. Ah bah si, remarque, mais bon, t'es pas propre. J'étais donc sur le point de dire, avant que ma digressivité aiguë ne se manifeste, nous sommes à 2 semaines de l'été, soit 15 jours, puisqu'une semaine fait 7 jours et que 2 × 7 égale 15, selon les gens qui comptent les jours. Tu me diras, c'est peut-être les mêmes qui comptent les centimètres de leur phallus. Phalluche, pardon, je voulais dire phalluche, c'est le truc qu'on prend à deux mains et qu'on met dans la bouche. Ah bah non, c'est bien phallus, me précise Leïla.
Non.
Bref, si vous regardez votre calendrier, vous y verrez peut-être des... Oui, si vous regardez votre calendrier, vous y verrez peut-être des chatons, surtout si vous appelez Gilbert, ou des femmes en maillot de bain échancrées, si on vous surnomme Gilou. Mais vous verrez surtout que l'été arrive. Summer is coming, comme diraient les fans de Game of Thrones qui se seraient gourés de saison. L'été est à nos portes. Alors, à la couleur du ciel, je sais qu'on dirait qu'on est en juvambre. Hein, on fait de l'aquapétanque et les moustiques sont en pull. C'est un fléau, vraiment. Non, moi, hier soir, j'ai entendu le moustique éternuer. Je vous jure. Mais franchement, j'ai entendu. Et il s'en fout de me piquer.
Merci. Oh, joli.
Ça fait une semaine que
j'ai entendu. J'ai le moustique éternuer.
Asseyez-vous. Non, mais il s'en foutait de me piquer. Il voulait juste un peu de couette. Hein. Il faisait pas bzz, il faisait glaglabz. Non, mais j'entendais me supplier. J'ai froid, je me l'épelle. Putain, j'adore. Moi, je pense que les moustiques ont peur du noir. Parce que dès que t'éteins, ils se mettent à gueuler. Et t'es obligé de les tuer pour être tranquille. Moi, j'aime bien les animaux, mais j'aime bien dormir aussi. Et tuer parfois, je suis pas contre. Hein, je viens quand même du Nord-Pas-de-Calais. Alors, je vois bien les associations de défense des animaux réécrire à France Inter en disant vous allez trop loin. Après les lévriers, les moustiques, animophobes, islamo-gauchistes. Et misogyne, parce que c'est les femelles moustiques qui piquent. Alors qu'en général, qu'est-ce qui pique? C'est la barbe de 3 jours de Gilbert. Oh là là, mais quel funambule ce Crédville. Il mérite vraiment de jouer au Splendide le 17 novembre à Lille et il a bégayé là-dessus.
C'est précisément
pas,
là.
Le Splendide 17 novembre à Lille. C'est précisément là que je veux en venir avec l'été. Parce que dès que les beaux jours se pointent, mesdames, on les voit, les injonctions sur les magazines pour vous faire perdre du poids. Soyez belle et mince pour la plage, comme si tu pouvais pas être belle et grosse. Chez les mecs, c'est la même chose, sauf qu'en plus, il faut une barbe de 3 jours. Mais
ouais,
quand t'es comme moi,
c'est la bonne.
Avec au bout de 6 mois de pouce une barbe de préadolescent, comment tu fais? Parce que se muscler, c'est facile, hein, pas pour tous les hommes si je me réfère au physique giron de Daniel Morin, mais il n'y a pas de salle de sport pour poils de joue. T'entendras aucun coach dire « Allez les bulles, bon pouce !» Ça ne marche pas. Alors les gens me disent « Si tu rases tous les jours, tu auras de la barbe. » Est-ce qu'ils ne seraient pas un petit peu cons ces gens? Hein, si je me rase tous les jours, ça veut dire que j'enlève de la barbe tous les jours. Est-ce que ces gens-là vous diraient « Si t'arrêtes de manger, au bout de 2 semaines, t'as plus faim. » Bah, t'as plus faim parce que t'es décédé. Hein. Alors je tiens à dire à tous les éditeurs de magazines qu'ils peuvent s'essuyer le pli interfécié avec leur page de couverture photoshopée, car nous afficherons fièrement nos rondeurs et nos joues imberbes durant les mois estivaux.
Mais
et surtout, surtout, bonne fête au Gilbert.
Merci, merci Gilbert.
Nagui, la bande originale.
Nous parlons du Festival du film indépendant Champs-Élysées Film Festival du 12 au 19 juin avec Judith Chemla et Anna Girardot qui sont nos invités. Céline Murillo viendra tout à l'heure nous parler un peu mieux que l'on a fait en début d'émission du film indépendant et de savoir quels sont ses réalisateurs emblématiques, notamment Jim Jarmusch, puisqu'elle a écrit un livre sur le cinéma de Jim Jarmusch. Mais d'abord, parlons de musique justement. Est-ce que vous aimez écouter, Judith? Dans les années 90, vous aimiez écouter Piaf.
J'ai péché par orgueil de ta voix.
Dans l'ambiance.
Dans un simple clin d'œil, mea culpa. J'ai péché par envie.
Vous l'entendez?
C'est pas Fandar, hein.
Non, mais c'est émouvant.
C'est magnifique.
C'est émouvant. Elle aussi, d'ailleurs, que ce soit avec les textes ou avec la voix, elle va chercher des émotions en nous.
Ah oui.
Vous étiez enfant, vous écoutiez déjà Piaf.
Enfant, je chantais ça mettait le doute à tout le monde. Je comprenais pas trop ce qui se passait.
Pendant que vos copains étaient sur les Bee Gees, que sais-je, ou des choses plus disco, vous, c'était Piaf.
Ouais, les grandes chanteuses.
Parce que papa, maman?
Non, je sais pas comment, je sais plus, j'ai dû entendre ça et j'ai tout de suite adoré, quoi.
T'arrives à l'imiter?
Ouais, mais là j'ai le rhume, là. Non, c'est un peu emmerdant.
Mais Piaf avec un rhume, alors.
Piaf enrhumé, j'ai jamais entendu.
En bord des barres, la voule.
Vous imitez beaucoup de voix comme ça, beaucoup de chanteuses?
Bon, je sais pas, c'est peut-être un truc de l'enfance.
Oui, non, mais je me demandais.
Est-ce que vous pensez de l'arrêt des guignols, du coup?
De l'arrêt des guignols. Je suis franchement triste.
En tout cas, dans ces années-là, vous, Judith, on a retenu dans votre enfance la pratique du violon. Vous en parliez tout à l'heure,
ouais.
Via votre grand-père.
Mon père, oui.
Et votre père, père, voilà, et vous avez commencé à jouer à 7 ans.
Ouais. J'ai fait du piano pendant 2 ans, de 5 à 7, et puis de...
Et pourquoi le violon?
Le violon pour être proche de mon papa, et pour ouais. Voilà, hein, je sais pas. Pour...
Et vous avez c'est l'instrument le plus difficile à jouer au monde.
C'est très difficile.
Oh, ça va, c'est pas non plus.
C'est une guitare qu'on met sur l'épaule.
Ouais, c'est vrai, bon, c'est d'une exigence redoutable, redoutable.
Parce que on appuie sur une touche de piano, on est sûr d'avoir une note. Voilà. On touche une corde de guitare, on est sûr d'avoir une note.
Ouais.
Violon, non, il faut c'est... la chercher la note.
Ah ouais. Ouais.
Et comment on appréhende la pratique du violon quand son père est un professionnel? Ça doit être compliqué. On a envie de faire plaisir.
Ah là. Oui, moi j'avais vraiment envie de lui faire plaisir, qu'il m'adore, qu'il m'aime, parce que je suis voilà, c'était un peu ça, ça quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est, ne pas le décevoir
c'est... Ouais, je pense qu'il y avait un truc comme ça, ouais.
Et vous avez pratiqué longtemps?
Pendant 7 ans. Mais bon...
Abandon pas... après,
c'était, ouais. C'était pas vraiment ma voix, quoi, c'est sûr.
J'ai pas trouvé de notes au bout de 7 ans, donc...
Non, mais...
Une pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le conservatoire? Ça veut dire un conservatoire de quartier ou un prof
ouais,
à la maison?
Ouais, conservatoire de quartier, ouais, moi j'ai été...
Mais
et
là,
puis, le père et le grand-père derrière.
Ouais, compliqué.
Vous étiez gentil,
au cinquième.
Non, vraiment un petit conservatoire. Okay. Non, non.
Et c'est là qu'apparaît le théâtre aussi dans votre vie, finalement. C'est à peu près à dans ces transitions, en fait.
Voilà, je découvre le théâtre et je comprends que c'est ça et j'arrête.
Le violon. Quoi.
Et c'est un prof de français qui vous a donné le goût. C'était quoi la pièce qu'il fallait préparer pour le mois de juin?
Non, mais c'était déjà de pousser les tables, de changer l'espace et puis d'avoir un texte, d'avoir des mots particuliers, je sais plus, pardon, j'ai un trou.
Vous parliez de textes de Tardieu, de
ouais,
Corneille.
De Tardieu, ouais, c'est ça. Donc c'était un peu surréaliste avec Tardieu,
ouais.
Et il y avait une liberté comme ça que j'avais jamais eue, quoi. C'est un humour, une créativité que j'avais jamais vraiment expérimentée. J'étais plutôt timide et tout, et là, j'avais...
Et votre premier public, c'est des personnes qui vivaient dans une maison de retraite.
Ouais. Non, c'est vrai. Je fais un stage à 14 ans.
Ouais.
C'est la Coupe du Monde. C'est trop marrant. Et on joue devant...
Bah, c'est un peu pareil. Bientôt la Coupe du Monde, vous avez le public de France Inter. Enfin, voilà,
sympa. Sympa pour eux.
Qui ne reviendra pas, a priori. Étrangement.
Qui sont vexés.
Ouais. On ne sait pas pourquoi.
Et ça change quoi de jouer devant des personnes âgées comme ça?
Faut
parler plus fort,
ça
enfin.
On apprend à porter la voix.
Ouais,
non,
ça,
nous, on ne se posait pas trop la question, quoi. On était contents.
Dans ces années-là, Anna Girardot, vous écoutiez
merci
les Charlots.
Merci patron. Quel plaisir de travailler chez vous. On est heureux.
Mais d'où elle vient cette musique dans votre playlist?
Alors, j'ai eu la chance d'avoir comme parrain Gérard Rinaldi.
Oh. Ah, d'accord. Comédien et chanteur des Charlots.
Comédien et chanteur, bah oui. Très bon musicien.
C'est votre
grand
parrain.
Jazzman. Oui.
Génial.
Ouais.
Et vous donc, avez pas filé l'oreille musicale, c'est le drame en
voilà.
fait.
Voilà. Mais du
il
coup.
Il a donné le sens de l'humour peut-être.
Ouais.
J'espère,
quoi
oui.
Quoi?
J'espère avoir
bonne
ce
van,
humour.
Elle a pas
voilà.
Ouais.
Alors voilà.
Et
bon,
c'est parti. Hein.
Et c'est vrai que du coup, j'ai été élevée par aussi par cet homme et j'étais toujours tellement heureuse et enjouée dès que les Charlots passaient à la télé et je chantais Merci patron ou.
Mais pardon. Avec votre famille,
oui.
Vous n'étiez pas impressionné de voir... j'ai compris, votre parrain, c'est Charlot, il passe à la télé. Ce n'est pas la première fois que vous voyez quelqu'un de proche passer à la télé ou passer au cinéma. Donc vous étiez déjà rompu à cet
oui,
exercice,
mais c'était plus une joie,
ouais.
Une joie de le voir à la télé.
D'accord.
Et surtout, il faisait beaucoup de voix de dessins animés.
Mmh.
Et donc, il me faisait fermer les yeux et tout d'un coup, il me faisait voyager avec tous les... personnage de Disney qui...
Peut-être qu'il allumait la télé, non ?
Qui faisait... plus besoin de télé.
Est-ce que vous avez l'impression comme ça que tous ceux qui étaient autour de vous passaient forcément un jour à la télé, étaient forcément connus ? Papa est connu, parrain est connu, donc est-ce que vous trouviez normal que le métier soit, entre guillemets,
il y avait quelque chose d'assez normal, en effet, d'avoir... ça m'a toujours... Non, ce qui m'a toujours surpris, c'est d'être à l'étranger, d'allumer TV5 et de tomber sur ma mère, par exemple. Ça, ou de mettre un reportage et puis de tomber sur la voix de mon père ou de ma mère. C'est quelque chose qui est super agréable. Je me dis, j'ai beaucoup de chance par rapport à ça.
Clairement.
Et puis, mais pour moi, mes parents faisaient un métier normal.
On en soit conscient, ouais, c'est ça.
Voilà. Je ne dis pas... oui, c'était pas anormal pour moi.
Et à 4 ans, vous faites vos débuts au cinéma. Premier pas, sous la direction de Diane Curis, dans Après l'amour. C'est votre père qui... Voilà, vous êtes sur un plateau, il faut une petite fille. Non, mais peu importe, c'est dans votre filmo, ça doit être hyper émouvant de vous dire, voilà, mon premier film, c'est Diane Curis, et mon père est dans le casting, et c'est génial, c'est un beau souvenir.
C'est un beau souvenir, mais en réalité, j'ai 4 ans, je m'en souviens pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ce jour-là. Donc oui, non, je suis. Je pense que mon père était plus heureux que moi pour ça, mais en effet, voilà, mes premiers pas au cinéma étaient à 4 ans.
Et vous rêviez
un petit génie.
Non, mais vous rêviez de faire quoi, enfant?
Enfant, je voulais être styliste, je voulais être voleuse professionnelle, je voulais être agent secret, je voulais être. Et un jour, j'ai réalisé.
Casa des Papels.
Casa des Papels.
Ah ouais, génial. Ne
commencez pas là-dessus. Okay. Mais c'est vrai que.
En Tokyo.
Mais... Ah ouais.
De Tokyo,
ah ouais.
Bah ouais. Cool. Cool. Tokyo,
on est casté pour Dunkerque, moi.
ma préférée, c'est Nairobi, quand même.
Ah ouais, c'est vrai.
Elle est géniale. Mais bon.
Bonjour à tous ceux qui ne connaissent pas la série.
Oui, je ne connais pas. C'est insupportable. Les gens qui parlent de séries quand on ne les a pas vues.
Il faut la voir. Il faut la voir.
Je connais quelques capitales.
Mais le professeur.
Ouais,
pas capitaine.
Professeur,
quelques capitales.
Ah, pardon. Qu'est-ce que je disais du coup, je sais plus.
Que vous vouliez être dans voleuse professionnelle.
En fait, je voulais jouer des personnages.
C'est l'enchaînement entre la série de Netflix, Casa des Papels et Casa des Papels. Et voleuse professionnelle. Être voleuse professionnelle, mais comment on rêve de ça?
Oui, Catherine Zeta-Jones dans Haute Voltige. Ah, mais j'ai pris une ficelle rouge et j'en ai mis partout dans la.
Pour faire des lasers.
Et qui faisait Sean Connery alors du coup.
Personne, il n'y avait pas de Sean Connery.
Et plus personne ne pouvait passer dans le couloir. Impossible d'aller à la salle de bain.
Voilà. Non, c'était ce plaisir de vouloir jouer des personnages en fait qui m'a nourri quand j'étais ado.
En 2007, Judith, vous écoutiez Lilac Wine. Lilac Wine de Jeff Buckley. It's sweet. Vous avez pas cette version? Ok, d'accord, c'est pas celle-là. C'est une version live, en fait.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais. Alors, vous nous avez demandé live, on a trouvé ça. Ouais. Il fallait nous dire dans quelle ville, parce que nous, on a pris la version à Chicago.
Ah ouais, putain, Chicago, il y avait un petit coup de moule.
Et en 2007, vous, Judith, vous débutez au cinéma. Vous vous souvenez?
Apparemment pas.
Oui, ça doit, oui.
Elphone.
Ah oui, Elphone. Tiens, tiens.
C'est Jason.
Ouais. Ouais. Ouais, c'était marrant. James non, mais Hutt, en fait, Hutt, en même Hutt, temps, il y avait le film de Noémie Lvovsky.
Oui, alors Noémie Lvovsky, elle parle beaucoup de vous, elle parle bien de vous.
Faut que ça danse, ouais. Je faisais en parler.
Et elle dit de vous, Noémie Lvovsky, vous êtes complètement à part, à la fois complètement barrée, et de venant de Noémie Lvovsky, c'est assez intéressant.
Elle dit que vous êtes un caméléon.
Ah ouais.
Mais elle dit ça avec beaucoup de haine. C'est pas du tout un compliment.
C'est vrai qu'elle est très énervée quand
même. C'est avec un rajout et j'aime pas les caméléons.
C'est vrai, j'ai oublié ça.
Non, mais j'imagine qu'une relation. Collaborer avec Noémie Lvovsky, ça doit être quelque chose d'un peu éthéré sur un plateau toutes les deux.
Éthéré, pas vraiment.
Ah bon?
Ah non.
Mais vous donnez l'impression toutes les deux d'être un peu barrées quand même.
Ah ouais, un peu barrées, ouais, carrément barrées.
Un peu perché, quoi.
Dire que.
Mais ça bosse.
Il y a du costaud.
C'est vrai?
Ah bah non, mais c'est incroyable.
Mais c'est-à-dire quoi? Elle est
un titan de travail.
Dictatoriale sur un plateau?
Je dirais pas dictatoriale, mais elle va au bout, elle use tout jusqu'à la corde pour trouver les dernières ressources. Mais j'adore, hein.
Et vous,
c'est
vous
génial,
ça,
mais elle m'a
ça,
poussée dans des trucs, j'étais en transe, quoi.
On apprend justement de certains tournages, comme ça, plus qu'avec un prof, plus qu'avec une masterclass.
Ouais, non, c'est vrai, bien sûr. C'est en vivant les choses qu'on apprend, bah oui.
Et à l'inverse, pardon, quand on est, sans citer de nom, avec un réalisateur ou un metteur en scène qui se contente, entre guillemets, d'une première intention,
j'aime
on
pas
est déçu.
Ah ouais, ah moi je déteste. Ah je supporte pas.
Mais on sent que vous
je supporte
là,
pas le contentement, là, ça me...
Et donc, vous pouvez nous faire une autre réponse, d'ailleurs, ça ne va pas...
Pourquoi? quoi.
On va pas se contenter de cette réponse, ouais, t'as raison. Quant à vous, Anna Girardot, vous écoutiez l'excellent Nino Ferrer. Des cornichons, de la moutarde, du pain et beurre, des oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. On a l'impression, entre les Charlots et Nino Ferrer, que vous aimiez un peu les chansons rigolotes.
Ouais.
Oui.
Non, ça ne nous va pas non plus, Anna, sur un autre ton.
C'est parce que, comme je suis déjà venue, la dernière fois, j'avais une playlist un peu plus mélo. Ouais. Là, voilà, je voulais un peu changer. La prochaine fois, je vous donnerai quelque chose d'autre. Voilà,
okay.
C'est ça.
Ok. Cool. Okay, non, mais pour l'anecdote, Nino Ferrer, lui, n'aimait pas beaucoup ce répertoire des cornichons, ouais, entre autres de Mirza, du Téléphon, parce qu'il se voulait être un musicien de jazz extrêmement pointu. Et comme il n'était pas reconnu dans cette catégorie-là, il faisait quand même des tubes parce qu'il fallait bien vivre et que ça marchait et qu'on les lui demandait. Mais il y avait toujours cette frustration de j'ai pas que ça dans mon répertoire. Mais ça a été toute sa vie.
Et encore
ça.
Aujourd'hui.
Et encore la preuve.
Voilà.
Et la preuve. Et la preuve.
2007 pour vous, Anna, c'est New York.
Oui.
Avec les cornichons, justement.
Exactement.
Vous les écoutiez en MP3
J'écoutais Nino Ferrer vachement. Je sais pas pourquoi. C'était ce côté chauvin. Je regardais la France avec moi à New York. Ouais, ouais. Et voilà, ça faisait partie de mon mes playlists. Mais en même temps, j'ai découvert tellement de musique à cette époque-là à New York que voilà, j'ai mis ça. Mais c'est parmi
Vous avez découvert quoi d'ailleurs à New York? C'est des styles
j'ai
de
découvert,
musique ou une manière
J'ai découvert un nouveau.
Le rap c'est
Alors le rap.
Parce que New York c'est à la fois une scène rap et une scène rock. Ça peut être du Springsteen. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a pas une couleur musicale, contrairement à la Californie qui a un son bien précis. Mais à New York il y a tous les styles.
Mais à New York c'est un multiculturel. Ouais. Moi j'habitais dans le Queens, alors c'était beaucoup de familles hispaniques. On va à Brooklyn, tout d'un coup on a Jay-Z dans les oreilles. C'est. puis après tu vas à Soho ou dans le Nord, enfin c'est tellement un melting pot de tout New York et du coup Nino Ferrer dans le Queens.
En tout cas à New York vous n'étiez pas forcément que pour écouter de la musique parce que vous avez pris des cours de théâtre parce que c'est ça qui est important dans votre parcours de votre formation pendant 2 ans quitte à travailler un peu à droite à gauche pour pouvoir payer parce que c'était pas donné.
Non, c'était très cher. Ouais. C'est très cher. Et New York, c'est très cher. Quand on a 19 ans, mon père, en plus, il m'avait dit « C'est n'importe quoi de partir à New York. Je te donne plus d'argent. »
Très bonne imitation. Polite,
j'ai
entendu.
Ça fait
longtemps que je n'avais pas entendu Polite comme ça.
et du coup, j'étais devenue l'assistante de ma prof de théâtre qui a cru en moi. Et ça, c'est vraiment été ma chance. Et puis à côté, ouais, je faisais des petits boulots, je peignais des murs, je faisais du service en restaurant, en boîte de nuit. Une boîte de nuit d'ailleurs où il n'y avait que des rappeurs. Et où j'étais là avec servir des vodkas.
Et pardon, c'est pas dangereux d'être la petite française étudiante avec des jobs ils étaient respectueux.
Ouais, bien sûr. Puis moi, je me laisse pas marcher sur les pieds, Nadine.
Voilà.
Attention.
C'est bien. Et surtout aujourd'hui, il faut mieux faire attention. Vu les chaussures que vous avez, en 2009, vous écoutiez Judith. Là, on retourne à New York. Bowie qui est sûrement le plus dingue de tous les artistes. On parlait tout à l'heure de Freddie Mercury, c'est vrai qu'ils avaient travaillé ensemble, mais c'était un interprète dans tous les sens du terme. Il avait des personnages, il a créé des univers, il a créé des musiques. Un bonhomme formidable.
Et Jean-Luc Lahaye
aussi. Et bon comédien. Et bon comédien en plus.
Ouais. Non, il s'en fout, là.
Je te confirme.
Et avoir du temps libre et être vraiment choisi, on va dire que c'est un peu le leitmotiv de 2009 parce que vous êtes à la Comédie Française et vous quittez la troupe. Ça fait à peine 1 an et demi que vous faites partie de la grande institution que beaucoup doivent vous jalouser ou vous jalousent encore. Et vous décidez de partir. Qu'est-ce qui motive une telle décision?
Elle est ingérable.
Non, mais je savais que je savais que j'allais pas faire ma vie là-bas en y rentrant.
Oui, 1 an et demi,
c'est
pas facile. C'est hyper court.
J'ai adoré. J'ai adoré. Franchement, il y a des gens. C'est une petite famille, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Mais il y a un abattage de travail monumental. Et puis non, mais j'avais envie de faire plein de choses, notamment des projets musicaux.
Et je sais pas compatible de sentir à que.
Et puis même là, quand mon emploi du temps il est blindé pendant 2 ans, je fais une crise d'angoisse, quoi. Je peux pas.
Ouais, c'est
j'ai besoin de pas savoir ce qui va m'arriver pour me dire qu'il y a un truc magique qui va m'arriver, quoi. C'est vrai, d'avoir du temps pour laisser de la place aux surprises, ou et même s'il y a rien, si c'est le vide et que c'est angoissant, tu te dis bon bah je peux inventer des choses, quoi. Il y a de l'espace pour que j'invente des choses, sinon c'est je me sens à l'étroit.
C'est ce qui a fait qu'au bout d'un an et demi, tout de suite, enfin, vous auriez pu vous dire, bah, j'attends encore un peu.
Bah,
je
non,
vois,
mais aussi
j'en profite.
Parce que j'avais un film, et puis on m'a dit, ma cocotte, tu joues 3 pièces à la rentrée, va falloir choisir.
Ah, d'accord. Donc, comme ça, la comédie française, vous appelez cocotte. Je comprends que vous ne soyez pas resté. Hein.
Non, c'était encore une époque où ils n'étaient pas encore
oui,
aussi
voilà,
ouverts.
Non, mais après, elle m'a dit, quand j'ai dit, bah, je vais partir, elle m'a dit, bon, on peut s'arranger. Je me suis dit, oh là là. J'ai pas envie de ménager la chèvre, le chou, le truc.
Ouais. C'est de voir aussi dans quel état est Guillaume Gallienne qui peut faire freiner des cas de fer aussi, parce qu'il est dans un état, il n'en peut plus. Hein. Oh.
N'en parlons pas.
Non, faut plus en parler.
Dans ces mêmes années, Anna Girardot, vous écoutiez Killing Joke.
Ah oui.
Et là, ça vous renvoie cette chanson en particulier ou ce titre
Fabrice Gobert, Simon Vernard a disparu.
Réalisateur
de Simon Vernard a disparu. Et
des revenants.
De Chaos.
Ouais.
Excellent réalisateur.
Super.
C'était bon,
bonhomme extrêmement agréable que nous avons reçu dans cette émission. Il est top.
Il est adorable, Fabrice. C'était donc mon premier film et mon premier tournage. Et c'était d'ailleurs le premier tournage pour beaucoup des comédiens du film. Et il y avait cette espèce d'ambiance sur le plateau vraiment unique. Et ce film qui nous a plus tard en plus amené à Cannes, on a découvert le film. Enfin, du coup, je me suis vue pour la première fois dans un film sur, à Cannes, en projection.
Et vos parents étaient là ? Isabelle et Hippolyte étaient là ou pas ?
J'avais demandé à mes parents de ne pas venir.
Sympa ?
Non, mais parce que ça faisait, après, que ça faisait trop.
Mais imaginez
non,
pour
je
eux.
Je sais, c'est terrible. Parce que du coup, mon père, en plus, est venu.
Sans vous le dire.
Sans
avec,
me le
avec
dire.
Avec une moustache ridicule, en plus.
Et, et un chapeau.
Des lunettes et
des
chapeaux.
Je te reconnais. Voyons, t'es con.
Le seul gars qui a un père dans le ciné et tout.
Non, et Isabelle est... Otero est venue ou pas ?
Non, elle n'est pas venue. Alors du coup, elle était triste. Alors moi, j'étais triste. C'est terrible. De toute façon, on essayait de faire plaisir aux parents et puis voilà.
Ceci dit, le résultat a dû leur faire plaisir quand même.
Ouais,
même si
ils étaient très fiers tous les deux. Et puis moi, j'étais fière de faire partie de ce film et de cette troupe.
Et vous avez été choisi vraiment au dernier moment. Fabrice Gobert raconte qu'il avait passé une cinquantaine de comédiennes pour trouver son Alice, c'était ça le nom du personnage. Et vous étiez la dernière. Dernière du casting à être vue. Et...
Ça sent le choix par défaut. Hein.
Bon, bah, on va prendre celle-là.
T'es libre ? Oui, bon, allez.
Tu fais rien, bah, viens.
51, il y en a plus.
Bon, bah. Non, mais c'était mon premier casting. J'étais revenue de New York la veille et c'était vraiment mon premier casting. J'étais toute motivée. Et puis là, on m'a dit bon, bah, tu as le rôle. Ah bon ? Oh, bah super ! Donc voilà, donc c'était un super premier souvenir.
Elles sont toutes les deux, Judith Chemla et Anna Girardot, présentes au jury du Champs-Élysées Film Festival du 12 au 19 juin. Céline Murillo, merci de venir à ce micro. Justement, j'ai un tout petit peu galéré pour essayer de comprendre la définition pure du cinéma indépendant. La réponse globalement faite était l'absence...
Manque de moyens,
L'absence de budget.
Oui, c'était une bonne réponse. Moi, j'étais complètement d'accord avec ce qui s'est dit, mais c'est une question tellement difficile. D'abord, c'est au film par film. On va dire, il y a un réalisateur indépendant.
Non, mais mon idée était de savoir, est-ce que c'est un film, forcément un cinéma d'auteur, pour comprendre ce que veut dire par rapport
au
marché et à la manière dont on peut distinguer les... Je sais pas, Godard et Antoniente, par exemple. On se dit, voilà, il y en a un qui est indépendant, l'autre qui fait partie des majors.
Bah, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est-à-dire que quand on fait des films, la plupart des gens qui veulent faire des films indépendants, c'est-à-dire sans dépendre des majors ou de la télévision quand c'est en France, il se trouve qu'ils ont un projet artistique cohérent. Mais pas tous. Il y en a qui veulent être indépendants financièrement et puis qui finalement, d'un point de vue artistique, on sent pas vraiment une patte, quelque chose
d'accord,
de sensible.
D'accord. C'est présent, c'est un mouvement. Enfin, c'est dans tous les pays ou c'est vraiment propre aux Américains et aux Français ?
L'idée au départ, c'était, il y avait Hollywood qui est vraiment le, voilà, la source du cinéma et avec plein de majors. Et donc, on est contre Hollywood. Donc ça, ça fait de l'indépendance. Et ensuite, toute forme d'indépendance est possible de différentes choses. Donc ça démarre, on va dire, aux États-Unis, puis en France, puis dans d'autres pays. Par exemple, être indépendant en Chine, ça veut surtout être indépendant du gouvernement.
Ouais, c'est ça. Les plus emblématiques, justement, des réalisateurs dans le monde indépendants. Jim Jarmusch.
Oh, j'ai envie de dire oui, parce que...
Soderbergh,
je pensais à ça. Peut-être que le prochain plus gros succès indépendant de l'année, ça va être Unsane.
Ouais, qui est présenté justement
au Champs-Élysées Film Festival.
Les films iraniens, par exemple.
Les films iraniens,
quand vous parlez des régimes, finalement, être indépendant dans ces pays, c'est être opposant. Donc
c'est ça, ou turc, comme Mustang, ce genre de choses.
Les plus gros succès, on sait quel est le film indépendant qui a eu le plus gros succès
Non, il n'y a pas de... Mais il y a des choses emblématiques, comme Tangerine, de Shane Baker, et qui a refait un film récemment, Florida Project. Et ça, c'est des films avec des budgets microscopiques et qui font des entrées tellement grandes que,
c'est vraiment
c'est un carton. Voilà.
Est-ce que... Non, mais Blair Witch, par exemple, Project, c'était un film indépendant.
Oui.
Voilà, et qui a été un énorme carton financièrement. Pardon, excusez-moi, je suis vieux, je pose des questions.
Et est-ce que prendre des comédiens hyper populaires pour des films dits indépendants, c'est pas problématique?
C'est chic, au contraire, non?
Mais non, je sais pas.
Tu veux dire pour les payer?
Pour ne pas perdre la patte indé.
Ça, c'est un peu difficile à dire, mais il y a quand même...
Faites un effort.
Par exemple, Bill Murray a joué dans le film de Coppola, de Jim Jarmusch.
Je parle en France.
En France, je suis incapable de dire.
Je sais pas si on prend un comédien hyper populaire, type Franck Dubosc. Est-ce que vous imagineriez un film indé avec Franck Dubosc?
Serge Bozon, à ce micro, nous avait expliqué que ses producteurs refusaient de prendre des comédiens trop populaires, justement, pour pas dénaturer le sujet.
Ils avaient une paire, elle est quand même assez populaire.
Ah non. Oui, mais elle est...
Ben oui et non.
Elle est très...
Elle a toujours été dans des
dans
films d'auteur aussi.
Puis elle prend carrément des risques aussi dans ses choix.
On la voit pas dans des comédies ou dans des trucs.
Franck Dubosc pourrait très bien décider de prendre
un risque.
Serge Bozon voulait faire tourner Patrick Sébastien. Ses producteurs, ça va pas être possible.
Parce qu'il montre l'image trop populaire.
Mais c'est pas par rapport à la personne que...
C'est dommage.
Personnellement,
c'est dommage.
Joker.
C'est dommage, parce que ça aurait peut-être fait quelque chose d'intéressant.
Mais ouais, absolument. Absolument.
Il était un peu contre, finalement.
L'intention de tous les réalisateurs de films d'auteur est un jour de rentrer dans, justement, les films à gros budget et de plus avoir de soucis de budget ou la contrainte financière les pousse au génie de la création, justement.
Quand on les écoute parler, on dirait qu'ils sont contraints, ils voudraient pas spécialement rentrer dans les majors, mais ils sont rattrapés par les gros studios, par les questions financières.
Et qui finance le cinéma indépendant?
Il y a 36 solutions.
Des mécènes, des producteurs
parfois,
courageux.
Des ulules.
Jim Jarmusch, lui, il fait le tour de plein de petits financeurs. Ça lui prend un temps fou, donc il récolte plein de petits budgets. Après, je regardais Soderbergh, il a 3 compagnies indépendantes. Mmh. Et donc, voilà, 3 compagnies, dont une qui dépend de lui. Et puis après, parfois...
Donc ils sont généralement auteurs, réalisateurs, producteurs, ils gèrent tout, en fait.
Parfois.
Comment expliquer d'ailleurs, parce que je reviens à Jean-Pierre Jeunet hier, qui nous disait qu'il avait du mal à financer ses films, petit 1 parce que ça coûte cher, mais petit 2 surtout parce que le marketing a pris le dessus en lui dictant ce qu'il devait faire, et donc ça portait atteinte à sa créativité, et qu'il préférait partir sur d'autres pistes que les majors.
Je peux comprendre. Et c'est-à-dire que c'est les films du milieu, c'est les films qui sont pas à tout petit budget, mais pas à très gros budget. Ouais. Ceux-là, c'est eux qui sont en difficulté il y a longtemps. C'était Pascal Ferrand qui tirait la sonnette d'alarme en disant ces films-là vont avoir vraiment des soucis. Donc c'est sûrement son problème.
Donc dernière niche encore protégée, allons voir les films indépendants. Le cinéma de Jim Jarmusch, vous l'avez signé chez L'Armatan. Merci Céline Murillo d'être venue à ce micro, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Tanguy Pastureau, Tanguy, vous êtes là.
Oui, bonjour Nagui.
L'Élysée se dégrade, vous dites.
Et oui, c'est un bâtiment magnifique qui là est dans le même état que le visage de Mickey Rourke. Alors des travaux sont nécessaires, il y en a pour 100 millions. Or Bruno Le Maire aux finances dispose de 97,20 € pour terminer l'année. L'Élysée a donc décidé de vendre des goodies.
Très bien, on en parle la deuxième partie avec Anna Girardeau et Judith Chemla qui sont nos invités. bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadine.
Bonjour.
Jérémy Crédville. Tom Villa.
Bonjour.
Mais il y a aussi Tanguy Pasturo.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Et nos invités Judith Chemla et Anna Giorgio.
Bravo. Jury bénévole.
Jury bénévole, c'est ça, aux Champs-Élysées Festival, où il y aura à la fois des invités d'honneur, c'est-à-dire Jennifer Jason Leigh, Chloé Grace Moretz, Tim Roth et Serge Boson qui seront présents, mais également John Cameron Mitchell et David et Nathan Zellner, avec des masterclass, avec des rencontres, avec des films en compétition, un film américain et un film français, une douzaine au tout. Pour le rooftop, ça sera plutôt les 7 DJ qui auront lieu au 133 en haut des Champs-Élysées.
Team c'est... Dup, il y aura Team Dup, il y aura Raphaël Nadal, Aloïs Sauvage.
Raphaël Nadal,
génial. Nadal, Vendredi sur Mer, Radio Elvis, voilà. C'est tous les groupes qui seront là sur le rooftop.
Ouais. Nadal a perdu ? Qui a dit ?
Il a perdu un set.
Ah, d'accord. Première fois. Vous êtes donc fan de Raphaël Nadal aussi. Il n'y a pas que les rockstars. En fait, vous aimez les beaux gosses, quoi. C'est pour résumer.
Je ne répondrai même pas à cette question.
Non, mais Raphaël Nadal ?
Non, ma meilleure amie est fan.
Il y a toujours les meilleurs amis de match.
Ah, la bandeau, la BR.
On reprend ?
Il y a également des courts-métrages qui sont présentés pendant ces projections. Des films
rooftop.
courts-métrages qui donnent l'occasion de découvrir de nouveaux talents, que ce soit des talents de réalisateurs ou de metteurs en scène. Vous en avez fait beaucoup dans vos carrières, Judith ? Dans votre carrière, Judith ?
Des courts-métrages ? Je suis en train d'en faire un en ce moment.
Que vous réalisez ?
Non,
ou que vous, dans lequel vous jouez ?
Dans lequel je joue. Donc je tourne la nuit, donc je suis défractée, si vous voulez. Et on est au Palais Garnier, là, c'est magique.
Ah ouais. Quelle chance d'avoir l'autorisation en plus.
Merveilleux.
Ouais. C'est hanté.
C'est Barjo, c'est très très beau.
Et vous l'avez accepté parce que c'est
parce
l'histoire
que c'est
qui vous...
Parce que c'est très très drôle. Le mec est d'un talent, Alexandre Steiger, qui est un acteur. Il a fait un court-métrage déjà qui était très bien. Et là, c'est associé à la troisième scène de l'Opéra de Paris. Et c'est produit par Péléas et tout. Et vraiment, c'est très drôle, c'est parfait, c'est génial le truc.
Et est-ce qu'il y a encore les créatures de James Thierry, Frolon, qui viennent ainsi dans les escaliers pendant le tournage ?
On tourne après, nous.
Ah oui, d'accord.
Et quant à vous, Anna, justement, participez à des courts-métrages, vous l'avez déjà fait ?
Moi aussi, j'en tournais en ce moment.
D'accord. Et,
à Hong Kong.
Excusez-la.
Donc elle est fracassée.
Je suis là vraiment un jeune réalisateur très talentueux, Édouard Tardan. Et je joue un androïde. Voilà.
Waouh.
Mais à Hong Kong, c'est oui. Normalement les courts-métrages,
c'est des gros budgets,
mais il y a pas beaucoup de budget, oui, pour les faire. Là,
on n'a pas.
Il fallait que ce soit là-bas. C'est le film a besoin de
Hong Kong, besoin de la ville.
C'est dans le décor même de la ville.
Non, il s'avère que je suis allée à Hong Kong et que c'est un réalisateur français qui vit là-bas.
D'accord.
Et voilà, donc nous venons de terminer une partie du tournage.
Et puis il y a des séries aussi. Il y a notamment une série qui s'appelle Eyes. Je sais pas comment on dit. Lyser. Comment il faut prononcer ? Eyes. Lyser, vous diriez quoi, vous qui êtes américaine ?
Lesser ?
Lesser ? Une série qui s'appelle... Oui, une série qui s'appelle Eyes. Ça s'est passé. Et dont le pitch est formidable, puisqu'ils disent Netflix a trouvé cette série trop bizarre. Ça me donne envie de la découvrir. En tout cas, vous pourrez la découvrir en première française pendant ce Champs-Élysées Film Festival qui a lieu du 12 au 19 juin. Netflix n'en a pas voulu. Bien, il est sur France Inter. Voici Tanguy. Et Tanguy, vous dites que l'Élysée va devenir une marque, carrément.
Oui, avant l'Élysée, c'était juste cette grande baraque dans laquelle les présidents faisaient l'amour à leur maîtresse. Il y a 360 pièces, donc pour que la première dame l'échappe, elle devait enfiler ses chaussures de rando et parcourir toute la bâtisse avec du bromure et un sécateur. Mais désormais à l'Élysée, il y a Macron qui est fidèle à Brigitte parce que tous les deux, c'est pour la vie, c'est trop trop beau. Ils se font plein de bisous. Le lieu ne sert donc plus à rien. Il est aussi inutile qu'une crème solaire chez les femmes à niqab. Alors Stéphane Plaza pourrait leur trouver un petit F2 avec balcon porte de Saint-Ouen. Mais non, on est en France, le président c'est un monarque. Et puis c'est pour le prestige, s'y reçoit l'émir du Qatar, dont même la brosse WC est en or. Dans une maison phénix, l'autre va dire « t'es gentil, tu m'as pris pour Philippe Poutou, pour te punir je rachète la France. Donc, on garde l'Élysée. Mais le truc tombe en ruine. Chaque matin, Stéphane Bern doit passer avec du scotch pour éviter que le plafond ne tombe sur Édouard Philippe, l'aplatissant, ce qui fait qu'il ne ferait plus qu'un mètre 94. Des rénovations sont donc prévues. Un chantier à 100 millions d'euros sur 7 ans. Parce qu'il faut tout refaire. L'électricité, à chaque fois que Brigitte branche sa brosse soufflante pour refaire son casque en cheveux, il y a tout le quartier qui disjoncte. La plomberie, les peintures, les moquettes, parce que Nemo a fait pipi partout où Philae, le chien de Hollande, avait fait avant, lequel avait pissé à tous les endroits où François Mitterrand avait fait lui-même, parce qu'il était très vieux. Et la sécurité incendie n'est pas aux normes. Donc à moins d'installer H24 Mamoudou Gassama pour qu'en cas de feu, il grimpe avec un doigt et agrippe Macron, hein, ce qui lui ferait son deuxième enfant sauvé. Et un jour, on va les perdre. Hein. Ils vont y entrer en tant que couple présidentiel, ils vont ressortir en merguez. Et Gérard Larcher les dévorera en disant « on va quand même pas gâcher ». L'Élysée, c'est donc un taudis humide, sombre, aux peintures écaillées et à la moquette qui pue l'urine et les sécrétions. Parce qu'en plus, quand Christophe Castaner voit Macron, il jouit. Alors que Macron est si beau, si parfait, si net, donc on a l'impression de voir une table basse Roche-Beaubois immaculée au milieu d'un magasin Jiffy dévasté par une coulée de boue. Il faut donc mettre 100 millions sur la table. Ce qui, pour Britney Spears, est simple. Elle fait semblant d'être équilibrée et chante 30 soirs à Vegas en slip transparent des trucs comme Work Beach, Crazy Slut ou Do You Like My Vulve. Oh. Mais Macron n'a pas d'argent parce que son livret A, c'est le budget de l'État. Et il reste que dalle. Bruno Le Maire a été obligé d'injecter dans les finances du pays ce qu'il y avait dans le cochon de son fils. Soit 16,20€ plus du shit, son fils a 17 ans.
Comment vont-ils faire donc pour trouver ces 100 millions d'euros ?
Eh bien, ils vont vendre des produits dérivés, dont des mugs, avec soit la photo de l'Élysée dessus, ils en vendront 100, soit la photo de Macron dessus, ils en vendront 1000, soit la photo de Macron dont les fringues, quand le mug est chaud, disparaissent et en dessous on voit son corps, ils en vendront 16 millions. Il y aura aussi des briquets, c'est véridique, hein, 2€ pièce. Or, le souci, c'est que les gens ne fument plus. Donc, parallèlement, une campagne pro-tabac sera lancée par Agnès Buzyn, avec des photos de poumons de fumeurs rose et bleu avec des fleurs, hein, et le slogan « Le tabac, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour l'État hein, », ce qui pourrait être celui qui existe depuis les débuts du tabac, parce qu'on aura fait crever des millions de gens juste pour enflouer les caisses. Il y aura peut-être des préservatifs de l'Élysée, hein, avec les têtes des ministres dessus, quand on sera en érection, on verra Benjamin Griveaux, et après l'orgasme, lorsque le sexe se recroqueville, Gérard Collomb. Bref, Macron, qui avait déjà le profil d'un vendeur, hein, lui, vous le lâchez à la foire de Paris, il écoule 15 000 presse-légumes avec pour la démo une seule carotte. Devient un vendeur. Tous les jours devant l'Élysée, il aura son stand et il se mettra à crier « Ils sont beaux mes porte-clés, vous en prenez trois, le quatrième est offert. Par pitié, Nemo a déféqué sur le tapis de René Coty hier et on n'a plus de quoi lécher Saint-Maclou. Soyez sympas. » Alors à noter que partout dans le monde, on fait ça. Hein, des produits dérivés à la Maison Blanche, il y en a depuis des lustres. Hein, lesquels ont tous été un jour ou l'autre mis dans des gens par Bill Clinton. Oh. À l'ONU, le grand truc mondial, là où les pays font les beaux sans jamais agir. Il y a également une boutique. Mais enfin, si vous allez à New York, allez plutôt assister au talk show de Jimmy Fallon hein, pour voir ce que les animateurs télé rêvent de faire en France. Puis ils en parlent à leur direction qui leur dit « Non, par contre pour toi, on a un jeu en duo avec Koé hein, dans lequel on tourne une roue et si ça tombe sur la couleur noire, il y a les chevaliers du fiel qui pètent. » Mais n'allez pas à l'ONU. Le bâtiment est moche et c'est bourré d'étrangers. Seulement là, l'Elysée, c'est pas les ricains avec leur sens du business de Pakistanais. Nous, on a Macron. Et le gars, il sait faire du flouze. Et il est pote avec Rihanna. Hein. Donc, si elle se met dans son prochain clip lascif à porter des chaussettes Élysée, derrière Beyoncé fait pareil, puis Obama, un ami. Hein. Donc Trump, jugeant qu'il n'y a aucune raison qu'Obama ait plus de style que lui, le fait aussi. Et ainsi de suite, d'ici 6 mois, Kim Jong-un peut être habillé de la tête aux pieds avec la marque Élysée. Hein. Il faut vendre. Sa presse, Macron a voulu se raser. Il a ouvert l'eau, le robinet a lâché. Il n'a jamais pu l'éteindre pour descendre au rez-de-chaussée. Il a un kayak. Bref, cette vente de produits de l'Élysée, c'est quasiment de l'humanitaire. Un briquet vendu, c'est un tapis qui part au nettoyage. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames.
Merci.
Sur France Inter.
Au Champs-Élysées Film Festival, film indépendant, non seulement il y a des longs métrages, mais des courts métrages. Toutes les deux, vous êtes en train de tourner un court métrage. Est-ce que ça vous a donné envie, à l'une comme à l'autre, de réaliser, d'écrire vous aussi une histoire et de vous prêter à l'exercice, Judith ?
Ah ben ouais, ouais, moi j'ai des histoires, j'ai une histoire, mais ça va dans tous les sens. J'aimerais bien, il faut que je me calme. Mais j'ai vraiment envie d'écrire. Ouais.
Pour les talents Adami, par exemple, ça pourrait être l'occasion. Pour Cannes,
c'est l'envie d'écrire puis de réaliser. C'est-à-dire, c'est d'abord c'est d'abord raconter l'histoire avant de la mettre en image, avant de cadrer,
ouais.
Avant de diriger les
comédiens.
Ouais,
mais on pense évidemment à tout ça aussi, quoi, aux images, comme à ce qu'on filme, comment on le filme, comment on regarde autrement et tout.
Et ouais. Vous seriez de quelle entre guillemets famille du cinéma si vous mettez à réaliser quelle beauté, de quelle lumière vous aimeriez avoir.
Le grain de quel réalisateur. C'est vrai que là, en voyant Jim Jarmusch et comment il décale les mondes et tout, moi, ça me passionne. C'est ça aussi, les frontières avec un peu de...
C'est une bonne référence, ouais.
Non, mais attendez.
Mais... Quoi
mais il faut Non, mais c'est mais... ça, c'est aussi de
Pourquoi
regarder
pas,
le monde un peu autrement, de trouver des espaces en dehors d'un réalisme trop... Ouais,
voilà. Anna Girardot, vous aussi l'envie d'écrire, de réaliser ?
Oui, beaucoup. Et là, ça y est, j'ai réussi à contenir toutes les idées dans un espèce de cercle. Et donc, je continue d'écrire. Et l'envie de mettre en effet des images, puis de la musique dessus et d'essayer d'aller trouver des émotions, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire, oui.
Et pareil, même question, dans quel univers, dans quelle direction pensez-vous aller ? Parce que réaliser, c'est veut dire... Je repense encore une fois à l'émission d'hier de Jean-Pierre Jeunet, où il y a beaucoup de références dans ça, dans ses propres films. Il reconnaît même, dans d'autres films, des références aux siens, mais bon, il l'a dit avec beaucoup d'élégance et beaucoup d'humour. Autant prévenir, autant me le dire, plutôt que de piquer carrément, ça fait partie du patrimoine culturel cinématographique mondial. Mais vous, justement, si vous avez quoi comme référence ?
En ce moment, j'aime beaucoup le cinéma asiatique. Mais après, j'ai peur d'écorcher les mots, donc les noms, donc je vais faire attention. Mais le cinéma taïwanais, par exemple, des années 90, c'est quelque chose qui m'inspire énormément.
Parce que il est quoi ? Il est rythmé, il est fou, il est coloré.
Oui, justement, le rythme est posé. On filme la ville d'une manière qui est très poétique. Après, c'est un rythme un peu lent, donc peut-être que t'ennuiera, mais...
Tom Villa, ils sont déjà là, maintenant ils s'ennuient.
Ça sent un tacle. Non, je l'ai bien pris.
Non, c'est un retour de tacle.
mais j'aime bien, en effet, les rythmes lents, les caméras fixes, les plans fixes, finalement, dans lesquels il se passe beaucoup de choses.
Et la BO.
Comme dans la vie. Et la BO.
Là, il vous faut quoi ? Trouver des producteurs, trouver des financements, justement, aller chercher des partenaires. Judith, vous en êtes à quel stade ? Ou vraiment que à l'écriture ?
Il y a 7 ans, j'avais commencé à avoir des idées, puis tout de suite il y avait quelqu'un, et puis j'ai pas du tout donné suite. Mais là j'ai envie.
Ah, un producteur vous a dit oui ?
Ouais, m'a dit c'est intéressant, vas-y, écris un premier. Et j'ai lâché.
Ça vous a bloqué en fait ?
Non, parce que je faisais plein d'autres choses, parce que dans ma vie c'était une sorte de grand chambardement, donc c'était pas le moment pour moi. Et là je sens que c'est.
Bah, rappelez-le.
Ouais.
Mais malgré tout, le problème du cinéma indépendant, c'est il faut quand même aller voir des producteurs, des distributeurs, il faut leur donner des arguments de vente quand même. Et c'est là où tout d'un coup, c'est un autre travail.
D'autant que le marché de vente du court-métrage n'est pas non plus le plus facile. C'est-à-dire, il faut trouver des partenaires, j'imagine, télé, des diffuseurs, notamment dans le festival Champs-Élysées. Le prix du court-métrage, je crois que c'est une participation de France Télévisions au financement et un achat et une diffusion, ce qui est peut-être le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire de pouvoir avoir un public qui a accès à son œuvre. Donc vous êtes à la recherche de partenaires vous aussi.
Oui.
Pour le dit comme ça, ça va donner envie. Hein.
Prenez quelqu'un pour s'occuper de vous. Demandez à Nagui un coup de main.
Je vais demander de venir.
C'est un tueur.
Non, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on est plus dans la création que tout d'un coup l'envie de
la démarche commerciale.
Malheureusement
faire les deux.
Oui, non, c'est vrai, mais bon, voilà, ce sera une prochaine étape.
Très bien. Nous, notre prochaine étape, malheureusement, c'est Daniel Mohr. On a essayé de le vendre, personne n'a voulu.
Tant pis. Hein. Alors les députés l'ont fait savoir, ils l'ont dit, ils l'ont crié. Le président de l'Assemblée nationale est même d'accord avec eux. Ils ont trop de travail, ils sont épuisés, les pauvres chéris. Surtout les nouveaux, ceux de La République En Marche. Du coup, ça explique certaines choses. Un jour à l'Assemblée nationale, un jour comme les autres, sauf que les députés sont au bout du rouleau. Ça fait plus de 10 jours qu'ils sont enfermés dans l'hémicycle. Ils ont à peine dormi, ils sont à bout de force.
Ça va, Jean-Claude ?
Non, Jean-Pierre, je suis pas bien. J'ai la vue qui se brouille.
Tiens, bon mec, il y a plus que deux textes à voter, on aura peut-être une heure de repos.
Oh putain, Jean-Pierre !
Quoi ?
Ça y est, je vois plus rien, je suis devenu aveugle de fatigue.
Ça va revenir, t'inquiète. Tiens, prends un peu de coke, ça va t'aider, c'est de la bonne. Je l'ai acheté au groupe de Mélenchon, ils ont des connexions en Amérique du Sud.
Mesdames, messieurs les députés, votre attention.
Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre ?
C'est le prochain projet de loi. On va voter.
Le prochain texte sur lequel vous devez vous prononcer, le suivant. Êtes-vous favorable à l'interdiction du glyphosate ? Répondez en tapant sur les boutons oui ou non de votre pupitre.
Vas-y, vote, Jean-Pierre, vote qu'on en finisse. J'y vois rien, mais tant pis. J'y vais au pif.
Putain, t'as voté non à l'interdiction du glyphosate, Jean-Claude. Mais je t'ai l'avais dit que je voyais rien.
Ah bah voilà, voilà, on a l'explication du vote scandaleux des députés à propos du glyphosate. C'est pas leur faute, ils sont morts de fatigue. Alors devant cette alerte au burn-out général, comment a réagi la majorité présidentielle ? Eh bien de façon plutôt sympathique. Sympathique mais couillu à la fois, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a sobrement déclaré « C'est une très bonne nouvelle que les députés travaillent beaucoup. Le travail intense des parlementaires est une bonne nouvelle. » Mais ouais les gars, qu'est-ce que vous croyez à la fin ? Avec le président Macron, on travaille, on bosse. Fini les journées parlementaires à la cool, style un petit café en arrivant à 10h, petite séance de vote où tu gueules « Ouh, c'est une honte !» Sans savoir pourquoi tu gueules, mais c'est la coutume. Pause déjeuner entre 12h et 16h, retour à l'Assemblée, petite main au cul aux stagiaires, on récupère les enveloppes de cash et hop, on rentre à la maison. Non, avec le président Macron, tu bosses. Il veut réformer le pays. Et pour réformer, faut voter. Et pour voter, faut des députés. Faites gaffe, les amis. Arrêtez de vous plaindre, sinon l'ambiance va changer. Juin 2022, les députés sont enfermés dans l'hémicycle. Ça fait exactement 134 jours qu'ils votent jour et nuit les projets pour finir de changer le pays. Pour les motiver et leur rappeler leur devoir, des accompagnateurs du gouvernement sont à leur côté.
Prochain texte, l'interdiction du droit de grève dans les entreprises de plus de 2 salariés ainsi que l'autorisation d'utiliser du glyphosate dans la confection des menus dans les cantines. Votez !
Jean-Pierre !
Oui, Jean-Claude ?
J'en peux plus ! Cette fois, c'est mes bras que je sens plus !
Fin d'effort, te fais pas remarquer, je t'en supplie.
Non, je t'assure, je suis au bout du rouleau, je contrôle plus mes membres supérieurs.
Accompagnateur, s'il vous plaît, le député Jean-Claude n'a pas voté. Pouvez-vous le motiver un peu, je vous prie ?
Oh non, pas l'accompagnateur.
Vote, chien.
Je peux pas, j'ai les bras qui bougent plus. Vote ! Je peux pas !
Vote ! Vote !
Déconne pas, Jean-Claude, appuie avec ton front.
Vote !
Merci, député Jean-Claude.
Bon, vous voyez, moi, ça me donne soif, tout ça. Je vais aller me prendre un smoothie Roundup vanille. Mmh, miam, miam. À demain, les amis.
Merci. Avec Maggie.
C'est dans la même série aussi où ils ont rejeté les caméras de sécurité dans les abattoirs.
Non, pas les poussins broyés.
C'est autorisé si l'abattoir est d'accord.
Si, d'accord.
Ouais, c'est ça.
Rien dans un premier temps, il faut l'accord de l'abattoir.
Ils ont refusé la loi contre les poussins broyés aussi.
Oui,
les poussins
et les porcs castrés vivants.
Voilà. C'est ça.
Et ce qui a choqué Leïla, chocolatine n'a pas été acceptée.
Chocolatine, ah ouais, bah voilà, moi je suis. Voilà,
non, mais je pour la chocolatine. Je voudrais juste comprendre ce qui se passe dans la tête d'un député qui dit pouvoir écraser des poussins. Ouais, non, si je vais.
Hashtag lobby.
On va continuer. Non. Mais là, j'ai la liste, elle est juste démoniaque. Tu avais parlé, interdit de castrer à vif les porcelets. Interdire les cages de poules pondeuses. Rejeté. Les cages pour les lapins, rejeté. La durée de transport des animaux vivants, rejeté. Les fermes d'usines, rejeté. Broyer les poussins mâles et les catons femelles, rejeté. Interdire l'étourdissement des volailles, rejeté. Interdire l'étourdissement des cochons, rejeté. Mise en place du contrôle des vidéos, donc rejeté, sauf accord du bonhomme. Steak digital.
Oui.
Ça a été accepté. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de dire.
C'était vachement important.
Quoi. Ouais, ça, par contre, ils sont réveillés, c'est sur toi. Et puis, évidemment, l'interdiction du glyphosate dans les 3 ans,
rejeté.
Et les plats végétariens en option dans les cantines, rejeté. Ce qui aurait été pourtant une très bonne solution pour qu'il n'y ait plus de problème non plus de religion, de discussion, en disant il y a un plat végétarien, il y en a un autre qui n'est pas.
Bilan, rejeté. Tout va bien.
Ouais. Bilan, les lobbies ont fait un boulot de dingue. Je crois qu'ils ont trouvé les 100 millions pour rénover l'Elysée. On n'est pas du tout énervé. Parlons de l'avenir.
Parlons des rooftops. Alors ça va se passer comment ?
133.
Au-delà,
c'est honteux.
On est d'accord.
Les rooftops ?
On est d'accord.
C'est révoltant.
Au Champs-Élysées Film Festival, donc vous serez du 12 au 19 juin. L'actualité, votre actualité, Anna Girardot, sera le 29 août, l'affiche d'un film aux côtés de Nicolas Duvauchel et Béatrice Dalle, de Marion Vernoux, qui s'appelle Bonhomme. Oui. Vous y faites quel personnage ?
Le bonhomme.
Je joue Marilyn, exactement. Non, je joue Marilyn, c'est l'histoire de Piotr et Marilyn, qui est un jeune couple qui, à la suite d'un accident de voiture, Piotr se retrouve traumatisé crânien. Et c'est une magnifique histoire d'amour où l'envie de pouvoir, de persévérer et d'espérer que l'amour pourra gagner.
C'est beau, hein?
Ah ouais.
C'est indépendant.
Ouais, le triomphe de l'amour, c'est beau.
C'est indépendant, oui.
Triomphe de l'amour. Très bien. Mais si c'est à la rentrée, on espère avoir la chance de vous accueillir à ce micro pour en parler. Quant à vous, Judith, au mois de septembre, vous jouerez Jeanne d'Arc au bûcher.
Oui.
Et ouais. C'est à Amsterdam.
Ah ouais, avec un des plus grands orchestres du monde. Ouais. Je suis très très contente.
Trois jours seulement. Ça représente combien
de... Ouais, 3-4 jours, je ne sais plus. Ouais. On joue à Rotterdam.
Combien de temps de travail, de répétition, de préparation
à
pour...
À peu près, on a une semaine de vraiment de répétition. Mais bon, le texte, le travail sur la partition, faut...
Tout en anglais ?
Non, en français.
En français ?
Sur le texte de Claudel.
D'accord.
Sublime.
D'accord. Le 19 décembre, vous serez à l'affiche de Maya, de Mia Hansen Love.
Ah, il y a une date de sortie, je savais.
Peut-être le 19 décembre, donc. Ouais. Là, vous y jouez qui ?
Et là, je joue l'amoureuse de Roman Kolinka, qui revient, qui est reporter de guerre, qui a été pris en otage pendant 4 mois. On ne savait pas s'il était vivant ou pas, et qui revient. Traumatisé, évidemment, et c'est sa reconstruction. Voilà. Mais il part en Inde, loin de moi, bien loin de moi.
Auriez-vous envie de faire un spectacle, un seul en scène, qui mélangerait musique, chant, jeu.
En partant de la Comédie Française, c'était mon but. Finalement, on était deux, avec un musicien. Mais ouais, c'est une expérience que j'ai un peu...
Mis de côté, mais c'est toujours dans un coin de la tête, c'est ça ?
Non.
Ah, c'est plus du tout dans un coin de la tête.
Non, très j'ai bien pas du tout envie d'être toute seule, là. Pas du tout.
Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour la grande famille du cinéma et pour l'esprit d'équipe en général. On a pu voir qu'Anna Girardot aime être dans les jurys pour, je cite, « dézinguer les carrières et l'avenir des films et des comédiens ». Bon esprit, bravo. Désolé pour Judith Chemla qui a pu voir ce matin que Nagui avait... Oubliez sa venue. Non, vous savez, ça fait 4 ans qu'on subit ce petit Alzheimer. Bon, c'est pas vrai. C'est un peu teinté de mépris en plus. Bon,
ça va pas s'arranger surtout.
Bon esprit. Et désolé pour Anna Girardot, cette grande amoureuse de la musique qui n'a même pas été conviée au Taratata spécial Black M Anne Romanoff de l'année dernière.
Pas de panique,
il va y en avoir d'autres. Vous savez, c'est quelqu'un de bon goût et surtout, bon esprit.
Kravitz, Muse, ça vous va ou pas ?
Ouais.
Bah c'est le programme de Taratata de la rentrée.
Ouais. Ben je serai là.
Et ben je vous dirai. En tout cas, pour l'instant, vous êtes aux Champs-Élysées. Film Festival du 12 au 19 juin. Merci Judith Chemla.
Moi, je fais un petit concert aux Trois Baudets le 20 juin. S'il y a des amateurs de mes chansons, chansons que j'ai écrites.
Le 20 juin aux Trois Baudets. Ouais. C'est noté. J'avais pas la date, pardon. Et Champs-Élysées, donc Film Festival du 12 au 19 juin. Merci Judith Chemla. Merci Anna Girardot. Ce sont les carnets de campagne maintenant avec Philippe Bertrand. Demain, Patrick Chesnais sera notre invité.
Ah, super.
Bonjour.
Bonjour Nagui, bonjour les amis. Je partage votre indignation, vous ne pouvez pas savoir.
À propos
Sur les rejets d'interdiction.
Ouais, c'est dingue.
Vérifiez quand même, le soir du débat autour du glyphosate, il y avait beaucoup d'absents.
Ah bah oui, c'est impressionnant.
C'est la grande mobilisation, si vous voulez.
C'est le problème.
Non, mais en même temps, ils savaient pourquoi il fallait qu'ils y aillent aussi pour voter. Donc c'est l'excuse de « Ah bah j'étais pas là ».
C'est pas de ma faute.
Allez. Bonne émission.
Bonne santé. Salut. Demain, salut les amis.